Près de 2 freelances sur 3 abandonnent avant leur deuxième année.
C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, ouais.
Ah, c'est massif. Et le plus tragique pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent ce milieu, c'est que ça ne reflète pas un manque de talent, en fait.
Non, clairement pas. Ni une incapacité à trouver des clients, d'ailleurs.
Exactement. Ce n'est pas non plus une absence de passion. C'est presque toujours l'effondrement total de leur organisation personnelle.
L'infrastructure qui s'écroule, quoi.
Voilà. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de nos sources pour explorer ce gouffre invisible qui engloutit tant de carrières indépendantes.
Et on a pas mal de matériel sur la table pour ça.
Oui, on a des textes promotionnels, une présentation technique très dense d'ailleurs, rédigée en Markdown, et aussi les éléments de design, dont le logo d'une plateforme SaaS qui s'appelle Boeto.
Boeto, ouais.
Bon, décortiquons tout ça. L'objectif, c'est de comprendre cette mécanique de l'échec et de voir comment cette application prétend inverser la tendance.
En devenant une sorte de copilote tout en un, c'est ça l'idée ?
C'est ça. Du coup, par où on commence avec ces données ?
Eh bien, les documents posent un diagnostic clinique vraiment très précis sur cette hécatombe. L'échec ne vient pas d'une défaillance de compétences dans le cœur de métier.
Le designer, c'est toujours designer, quoi.
Exactement. Le problème, c'est une défaillance de l'infrastructure de travail. Les sources soulignent une statistique assez accablante. Ces professionnels perdent en moyenne 7 heures par semaine.
Attendez, 7 heures ?
Oui, 7 heures gaspillées à jongler.
C'est l'équivalent d'une journée entière de travail, ça ?
Absolument. Une journée entière passée à passer d'une base de données Notion à des fichiers Excel éparpillés, des dossiers Google Drive chaotiques, sans parler de la boîte de réception qui déborde.
C'est l'enfer administratif.
Cela soulève une question importante. La charge cognitive requise pour maintenir ce petit écosystème artificiel, elle finit par consumer toute l'énergie créative du freelance.
Ouais, 7 heures par semaine, c'est vertigineux quand on y pense sur une année entière. En lisant ces sources, j'ai une image qui m'est venue en tête.
Ah oui, laquelle ?
Se lancer en freelance aujourd'hui, avec cette myriade d'outils déconnectés. C'est un peu comme ouvrir un restaurant gastronomique, mais on imposerait au chef de passer 80% de son temps à scier du bois dans la cour.
Pour fabriquer ses propres tables.
Voilà, pour fabriquer les tables de la salle à manger au lieu d'être derrière ses fourneaux.
C'est une excellente analogie, franchement.
Et le résultat sur l'activité est brutal. Nos documents pointent une moyenne de 3 jours de retard à chaque demande de devis.
Juste à cause de cette absence de processus fluide, ouais.
C'est fou. Du coup, face à ces blocages, on est en droit de se demander, est-ce que c'est vraiment un manque de rigueur de ces nouveaux entrepreneurs ou est-ce que l'industrie du logiciel leur fournit des outils inadaptés ?
L'analyse de la philosophie du produit apporte un éclairage super intéressant là-dessus. En fait, le problème réside dans la nature même des outils dominants sur le marché actuel.
Les fameuses pages blanches.
C'est ça. Un tableur vierge ou un espèce Notion vide sont des instruments d'une puissance phénoménale. Mais ça reste des coquilles vides.
Faut tout construire soi-même.
Exactement. Ils exigent de l'utilisateur qu'il invente sa propre méthodologie à partir de zéro. Et ça crée ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle.
Ouais, on s'épuise avant même d'avoir commencé à travailler.
Et c'est précisément là que l'étymologie du nom de l'application prend tout son sens. Les documents précisent que Boeto, c'est un terme du grec ancien.
Qui veut dire quoi, du coup ?
Ça signifie venir en aide, ou porter secours, ou encore soutenir quelqu'un dans son effort.
Ah oui, c'est une promesse assez forte. C'est très, très éloigné du vocabulaire purement technique qu'on a l'habitude de voir.
C'est délibéré. Ça marque une vraie rupture conceptuelle. Le paradigme classique de la tech, c'est de dire « Voici une feuille blanche avec 1000 fonctionnalités et bonne chance. »
Débrouille-toi, quoi.
Voilà. Alors que l'approche décrite ici propose un cadre. L'outil ne se présente pas comme un simple espace de stockage, mais comme un tuteur algorithmique.
Un tuteur, carrément.
Ouais, conçu pour structurer l'effort. Le but, c'est d'empêcher l'indépendant de se noyer dans le vide de son organisation pendant les premiers mois.
D'accord, d'accord. Mais poser de belles intentions philosophiques, c'est une chose. Affronter la réalité du quotidien en est une autre. Hein.
C'est clair.
Comment cette application combat-elle concrètement ce fameux syndrome de la page blanche-là, dès la première connexion ?
Eh bien, la doc technique détaille une architecture en 3 piliers. Le premier est baptisé les fondations. Et la méthode prend le contre-pied total de ce qu'on connaît.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'ils font de différent ?
Au lieu de demander à un nouvel inscrit de paramétrer des colonnes, le système déploie une série de 10 ateliers stratégiques guidés.
10 ateliers, ok.
Séquencés de A0 à A9. La mécanique est super simple en apparence, l'utilisateur répond juste à des questions ciblées.
Une sorte de questionnaire interactif.
C'est ça. Et pendant qu'il répond, le moteur structure les données en arrière-plan. Ces ateliers forcent la définition de la cible commerciale, la promesse de marque, l'offre de services.
Tout le positionnement, en fait.
Ouais, et ça s'étend même à l'identité visuelle, pour fixer les palettes de couleurs et les choix typographiques.
Ah, c'est super intéressant de voir que le design fait partie de ces fondations. D'ailleurs, en parlant de design, les sources incluent une description de leur propre logo.
Oui, le fameux B majuscule.
Ouais, ça agit comme un vrai condensé visuel de leur promesse. On a ce grand B majuscule, très droit, structuré, d'une teinte sombre, presque noire.
Ça donne un côté très ancré.
Visuellement, ça hurle la solidité, le professionnalisme intransigeant. Mais, et c'est là que c'est malin, ce bloc un peu austère est contrebalancé par un point...
Un accent jaune, c'est ça ?
Exactement. Un accent d'un jaune lumineux, très chaleureux. Et le texte Bueto, en dessous, reprend cette touche colorée. C'est une belle métaphore graphique.
La rigueur d'un châssis industriel froid, réchauffé par l'aspect humain.
Ouais, la bienveillance de l'accompagnement.
Le terme de châssis industriel est vraiment bien choisi, parce que la présentation Markdown ne cache pas la complexité technique derrière tout ça.
Ah oui, c'était le document très dense qu'on a lu.
Très dense, oui. L'infrastructure repose sur des technos de pointe. On parle de Next.js 15 avec la app router et une base de données Supabase propulsée par PostgreSQL.
Alors, pour ceux de notre audience qui ne sont pas développeurs, ça peut ressembler à un empilement d'acronymes.
C'est vrai, mais l'impact sur l'expérience utilisateur est massif. Cette stack permet une synchronisation en temps réel, sans aucun temps de chargement.
Tout est fluide.
Quand le freelance navigue entre ses clients et sa facturation, c'est aussi rapide que sur les applis des géants de la tech. Ça ne s'effondre pas sous le poids des données, et l'interface utilise des typos ultra lisibles comme Inter et JetBrains Mono.
Bon, la robustesse technique est indéniable, mais il faut qu'on s'arrête un instant pour jouer l'avocat du diable.
Je vous en prie.
Construire l'intégralité d'une marque, de son positionnement et son identité, juste en remplissant des champs dans un formulaire en ligne, est-ce qu'on ne fonce pas droit vers une uniformisation massive ?
Le risque du formatage.
Bah oui. Le grand danger de l'automatisation, c'est de créer un moule industriel dont sortiraient des milliers de freelances, tous pareils, lisses et sans saveur.
C'est d'ailleurs le premier frein psychologique face à ce type d'outils. Mais la documentation insiste sur la nature maïotique de ces ateliers.
Maïotique, donc ça accouche les idées, ça ne les invente pas.
Exactement. Ils n'inventent rien à votre place. Ils extraient la matière qui existe déjà. Les sources mettent en lumière un cas d'étude super parlant, celui de Claire, une designer freelance.
Ah oui, l'exemple de Claire.
Son profil est très symptomatique. Elle avait l'expertise, l'énergie, la vision, mais elle souffrait d'une paralysie totale face à son propre positionnement, le syndrome du cordonnier mal chaussé.
Et le paradoxe de la page blanche frappe souvent hyper durement les profils créatifs, parce qu'ils ont trop d'options possibles.
Précisément. Ce que les ateliers ont apporté à Claire, ce n'est pas une identité préfabriquée, mais un entonnoir de décision.
Ça réduit les choix pour forcer l'action.
Ouais. En la forçant à répondre à des contraintes, le système a dissipé le brouillard. La citation extraite des documents résume bien ça. « Pour la première fois, j'ai l'impression de construire quelque chose, pas juste utiliser un logiciel. »
C'est puissant comme ressenti.
L'application agit comme un catalyseur. Elle fournit les murs porteurs et laisse le professionnel décorer l'intérieur avec son expertise.
On valide donc l'étape de la théorie. Les murs porteurs sont là. Mais une belle promesse de marque qui reste dans un tableau de bord, bah, ça ne paie pas les factures à la fin du mois.
Malheureusement, non.
Comment cette théorie survit-elle à l'épreuve du terrain, avec les clients, la prospection, les devis ? C'est là qu'on bascule sur le deuxième pilier de l'outil, les opérations.
Ouais, la gestion au quotidien.
Les documents décrivent un écran d'accueil nommé Today. Et l'approche est intéressante, hein. On a un score de santé de l'activité, genre 76 sur 100, ou une jauge de progression à 68%.
Ça donne un pouls immédiat du business.
C'est ça. En dessous, il y a un CRM simplifié pour voir ses contacts en liste ou en Kanban, et on nous promet des devis PDF juridiquement conformes générés en quelques clics.
Ce tableau de bord Today a une fonction presque neurologique, en fait. Son but, c'est d'éradiquer l'angoisse matinale.
Le fameux « parpoise commence aujourd'hui ».
Exactement. En agrégeant les données vitales, l'outil dicte la priorité du jour et coupe court à la procrastination. Mais la vraie ligne de démarcation avec un outil traditionnel, elle est dans le troisième pilier.
L'intégration de l'intelligence artificielle.
Oui. La doc détaille l'utilisation des API de modèles de langage, notamment ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic.
Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que soyons honnêtes, l'immense majorité des gens qui ont testé l'IA pour écrire un mail de vente ou un post LinkedIn ont été déçus.
Ah oui, le résultat est souvent très, très reconnaissable.
Le texte est grammaticalement parfait, mais il est atrocement lisse, impersonnel, robotique. Utiliser une IA générique aujourd'hui, bah, c'est comme confier sa com à un stagiaire qui arrive le premier jour.
Avec une très bonne vitesse de frappe.
Ouais, il tape très vite, il est de bonne volonté, mais il ignore tout de la culture d'entreprise, du ton à employer, des vrais besoins des clients. L'approche de Buetto semble vouloir résoudre cette amnésie chronique.
Ce qui est fascinant ici, c'est le concept technique que la doc appelle les données interconnectées. L'accès à une IA, aujourd'hui, c'est devenu hyper banal.
Tout le monde y a accès.
Ce qui crée une immense valeur, c'est la tuyauterie invisible entre les modules. Les réponses données lors des ateliers fondation le premier jour ne finissent pas dans un PDF mort.
Elles restent actives.
Elles deviennent une base de données contextuelle. Concrètement, quand l'utilisateur demande à l'IA de rédiger une proposition commerciale, le système ne se contente pas d'envoyer juste cette requête.
Il envoie quoi d'autre ?
En une fraction de seconde, il compile le ton de la marque défini dans l'atelier A3, le profil psycho du client de l'atelier A4 et tout l'historique du CRM.
Ah ouais ? L'IA ne commence donc jamais avec une page blanche, de son côté non plus.
Jamais.
Le logiciel injecte un manuel complet de l'entreprise en arrière-plan, avant même que l'IA ne génère le premier mot. Le fameux prompt est pré-mâché par le contexte global.
C'est le principe de la contextualisation par API. Le système construit une instruction hyper complexe, en cachette, forçant le modèle à coller parfaitement à l'identité du freelance.
L'IA devient un exécutant surinformé, en fait.
Et puis, il y a la question de la confidentialité, qui est majeure quand on manipule des données clients.
Évidemment, on ne veut pas que nos stratégies se retrouvent sur la place publique.
Les documents sont clairs, hébergement exclusif en Europe, chiffrement de bout en bout, et surtout, les données ne servent jamais à entraîner les modèles publics des fournisseurs d'IA.
C'est la condition sine qua non pour l'utiliser professionnellement, c'est clair.
Donc, si on récapitule l'architecture, on a un CRM complet, un moteur de facturation, une dizaine d'ateliers de stratégie et une IA nourrie en temps réel.
C'est une sacrée machinerie.
Historiquement, ce genre de système relève du domaine des ERP. Vous savez, ces logiciels massifs pour les grandes entreprises qui coûtent des centaines d'euros par mois et prennent des mois à installer.
Des usines à gaz, oui.
Comment une telle proposition de valeur peut s'aligner avec la réalité économique d'un freelance qui débute et qui a une trésorerie proche de zéro ? La stratégie tarifaire exposée dans les sources, ce n'est pas juste une grille de prix, c'est le levier central de leur positionnement.
Ça commence par un plan gratuit, c'est ça ?
C'est un plan à 0€, oui. Il donne accès au tableau de bord, au premier atelier des A0 et permet de suivre jusqu'à 5 contacts commerciaux. Et le détail crucial, pas de carte bancaire à l'inscription.
On élimine toute la friction.
Exactement. Le freelance peut tester la méthode sans l'angoisse de l'engagement financier.
Et s'il veut passer à la vitesse supérieure, le plan pro est affiché à 14,90€ par mois.
Ce qui est vraiment très accessible.
Les sources précisent que ça débloque tous les ateliers. Le CRM illimité, les devis, la com et les requêtes IA pré-contextualisées. Sans engagement, résiliable en un clic.
L'argumentaire est limpide. C'est moins cher qu'un café par semaine.
Ouais, et surtout, ils mettent en avant l'économie par rapport à l'accumulation d'abonnements. Payer séparément Notion, un CRM comme HubSpot, un outil de devis et ChatGPT+, bah, ça ferait exploser la facture.
Facilement 10 fois ce prix-là.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? À 14,90€, est-ce qu'on assiste à une politique de la terre brûlée pour tuer la concurrence ? Ou y a-t-il une logique plus profonde ?
Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est un choix de conception en adéquation avec la cible. Il ne cherche pas à séduire de grosses agences avec des organigrammes complexes.
Il vise l'indépendant solo.
Il vise chirurgicalement les 95% de freelance qui veulent du clé en main, sans courbe d'apprentissage technique. En comprimant le prix à moins de 15€, ils démocratisent l'accès à la structuration.
Ils abaissent la barrière à l'entrée.
D'être équipé avec la même rigueur qu'une PME établie depuis 10 ans.
C'est un bouleversement complet de la dynamique. En prenant un peu d'auteur sur tous ces détails, on réalise que ces documents illustrent un vrai changement d'époque pour le travail indépendant.
Ah oui, une transition majeure.
On quitte l'ère où le logiciel n'était qu'un entrepôt passif où il fallait ranger ses propres outils. On entre dans une phase où la plateforme agit comme un chef d'orchestre implacable.
Une méthodologie encapsulée dans du code.
Voilà, conçue pour empêcher l'utilisateur de dérailler et de rejoindre ces fameux 63% de faillite précoce dont on parlait au début.
C'est l'enseignement fondamental à extraire de cette exploration. Pour tous ceux qui nous écoutent, surtout ceux qui se sont déjà retrouvés tétanisés devant des relances à faire ou perdus dans des dossiers mal nommés,
l'enfer du quotidien.
Ces sources démontrent la suprématie de l'infrastructure sur la simple volonté. L'échec n'est pas une fatalité liée à un manque de talent. L'expertise humaine a juste besoin d'un rail solide pour durer.
C'est clair. Sans un système rigoureux pour encaisser l'administratif, même le plus grand talent finit par s'épuiser. Confier la mécanique à la machine pour libérer l'esprit créatif, en somme.
C'est tout l'enjeu, oui.
Mais, et je terminerai là-dessus, cette évolution foudroyante soulève une réflexion finale presque vertigineuse pour notre audience.
Je vous écoute.
Si, dès aujourd'hui, une application peut digérer 10 ateliers pour imiter la voix unique d'une marque, anticiper le flux commercial, relancer les prospects et dicter les priorités.
De manière autonome, oui.
Comment définirons-nous le rôle exact du freelance dans 5 ans? Est-ce que l'humain ne deviendra plus que l'étincelle missiale, l'impulsion créative, pendant qu'un copilote numérique, tapis dans le tableau de bord, gérera secrètement 90% de l'entreprise à sa place? C'est sur cette question vertigineuse, concernant notre place face à la machine, que s'achève cette réflexion.